Bonjour, bienvenue dans le temple virtuel de l'église protestante de Bligny. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur par le Saint-Esprit. Je vous invite à la prière. Ô Dieu, nous voici réunis pour passer un peu de temps en ta présence. Bien que tu sois toujours avec nous, nous voulons nous mettre à part pour partager ce moment de méditation et de réflexion. Bien que séparés de nos amis, frères, sœurs, parents et tous ceux que nous aimons, nous pouvons être unis dans la prière que nous faisons monter vers toi. Garde-nous sous ton aile et que ta gloire rayonne malgré l'agitation du monde entier. Renouvelle ta paix en ton Église réunie, au nom de Jésus. Amen. Dans ce moment difficile que nous vivons, les plus grandes hypothèses et scénarios sont évoqués. Ça va passer. C'est un virus créé toute pièce. C'est Dieu qui juge la terre, etc., etc., etc. Oh, tout est peut-être vrai ou faux. Je ne sais pas. Je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas. J'aimerais juste m'arrêter sur cette expression quand même que j'ai entendue. C'est Dieu qui juge la terre. Ben oui, c'est possible. Et quelque part, il en aurait le droit. Pour plein de raisons. Je n'en évoquerai que deux. L'homme saccage son œuvre, sa création. Imaginez que vous venez de terminer une peinture exceptionnelle qui vous a pris pas mal de temps et dans laquelle vous avez mis tout votre cœur et votre amour. Et lors de l'exposition, les passants la bafouent. Des tags, des coups de cutter, des crachats. Je ne pense pas vraiment que vous seriez heureux. Deuxièmement, l'homme a tué son fils, Jésus. Imaginez que votre enfant soit enlevé et retrouvé mort après plusieurs mois d'attente. Vous seriez en rage contre le ravisseur meurtrier. Et Dieu n'aurait-il pas le droit de demander justice? Oui, bien sûr, il est Dieu. Ce n'est pas pareil, diriez-vous. Il est obligé de pardonner, lui. Abraham, quand il intercédait pour Sodome, tenait le même langage. Nous lisons dans Genèse chapitre 18, verset 25, dans la version français courant, voilà ce qu'il disait à Dieu. Loin de toi cela, tu ne feras pas mourir l'innocent et le coupable, de sorte que l'innocent ait le même sort que le coupable. Il n'est pas possible que le juge de la terre ne respecte pas la justice. Et au psaume 7, verset 11, il est écrit que Dieu est un juste juge. Et David d'ajouter au psaume 58, verset 12, oui, sur la terre, il y a un Dieu qui juge. Oh, si on s'arrête là, nous nous trouvons dans un nouvel épisode de Face au juge. Et le verdict tombera. Coupable. La sentence sera peut-être allégée, suivant si le juge est indulgent dans un de ses bons jours. Mais Dieu est aussi Père. Il a permis que dans son tribunal, il y ait un avocat de grande renommée, son propre fils Jésus, qui a lui-même pris toute la condamnation. Quel est le juge humain qui en ferait autant? Ferait-il preuve d'indulgence? Dans son tribunal, Dieu, le juste juge, nous voit tous coupables et condamnables, sauf si nous nous y présentons en compagnie de notre avocat, Jésus-Christ. Il vient avec quiconque l'accepte, présenter ses mains et ses pieds percés, signe du paiement de la dette. Et le juste juge acquitte par le sang de Jésus. Dieu juste juge n'est pas indulgent, il est grâce. Oui, Dieu juge les actions des hommes, mais il aime l'homme et il est prêt à lui pardonner, parce que derrière ce juge, il y a aussi un papa aimant. Dieu n'est pas indulgent, il est amour. Avant de passer la parole à notre frère Paul, je vous invite à écouter ce chant du groupe Glorious qui nous montre qui est mon Dieu unique et ce qu'il a fait.
Même si pour... tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car
Éternel, encore une fois, nous voulons te remercier pour la parole qui va être partagée au travers de ces textes qui ont traversé le temps. Merci. Merci pour ce que tu nous accordes. Merci pour peut-être ce temps de recul. Merci de nous donner encore ton message aujourd'hui. Mais qu'à toi une fois encore revienne toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Chers amis, chers frères et sœurs de Bligny, heureux de pouvoir être en contact avec vous par ce moyen. C'est une première pour moi, mais je vais communiquer avec vous quelques idées sur la parole de Dieu. Il y a dans la Bible plusieurs versets qui nous parlent des épines. Et le sens est souvent donné à ces épines, le sens de la souffrance ou de l'épreuve. Et Louis II traduit 88 versets. Il mentionne épines, ronces, chardons ou échardes. Alors, nous allons faire une petite sélection qui démontre la progression de l'importance et du sens que la Bible en donne. Et bien souvent, nous disons « il n'y a pas de rose sans épines ». Une chanson dit « il n'y a pas d'amour sans histoire ». On dit qu'on n'a rien sans peine et que même la souffrance a un sens. Donc, le sujet est important. Et nous voyons l'origine des épines dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, où je lis du verset 17 à 19, Genèse 3, 17 à 19, « L'Éternel Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en retireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Donc ici, on décrit l'origine de tous les malheurs. C'est l'entrée du péché dans l'histoire de l'humanité par le premier péché de l'homme, qui est appelé péché originel ou simplement la chute. On peut facilement s'imaginer qu'avant la chute, tout était bon. Comme c'est mentionné 6 fois lors de la création, il n'y avait pas d'erreur, pas de malheur, pas de souffrance, il n'y avait pas d'épines. Même les chardons, s'ils existaient, n'avaient pas d'épines. Le serpent n'avait pas de venin. Il est dit qu'il avait des pattes et qu'il était respecté. Les félins étaient pacifiques, ils étaient herbivores. Adam et Ève étaient immortels. Alors, inutile bien sûr de les blâmer parce que n'importe quel être humain aurait désobéi tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, nous certainement y compris. Nous sommes tous de la même nature, la nature d'Adam. Et comme il est dit dans Romains 5, le verset 2, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Alors, on peut facilement imaginer qu'avant la chute, il n'y avait pas d'infection, pas de maladie, pas de piqûres d'insectes. Les virus n'existaient pas. D'ailleurs, ce sont des parasites qui dépendent d'organismes vivants, préexistants. Quand on voit certains virus au microscope, on voit comme des boules remplies de picots, de vrais cactus. Pour le coronavirus, les picots sont remplacés par des ventouses, ce qui n'est pas mieux. Alors, il y a en Israël diverses plantes épineuses. Certaines régions sont horriblement épineuses, comme les abords du mont Tabor et la plaine de Jisréel. Il y a un buisson fort épineux qui se trouve partout autour de Jérusalem et qui s'appelle le jujubier. On l'appelle aussi épine du Christ. Ces tiges sont souples et se prêtent bien au tressage. Il y a en Israël différents chardons. Certains s'élèvent jusqu'à 3 mètres de hauteur. Et il y a aussi un néophyte. C'est le figuier de Barbarie, dont les fruits sont comestibles à condition de bien les éplucher, parce que c'est un cactus d'origine américaine, un cactus invasif. Il n'existait pas en Israël avant Christophe Colomb, ce qui montre l'universalité des conséquences de la chute. Aujourd'hui, on le trouve partout en Israël. Alors, dans Romains 8, Paul développe l'idée que toute la création soupire et souffre. au verset 22, Romains 8, 22. Elle souffre la servitude de la corruption, verset 21. Elle a été soumise contre son gré à la vanité, verset 20. Elle souffre des douleurs de l'enfantement, allusion encore au péché originel. Et elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Paul dit que c'est ainsi jusqu'à ce jour, verset 22. Il me semble que c'est encore plus urgent, plus actuel, aujourd'hui, ce que Paul décrit ici. La création entière souffre et soupire, et l'humanité avec elle. Alors nous voyons dans la suite de l'Ancien Testament que les épines sont vraiment comme une malédiction. Avant de mourir, Josué a fait un discours terrible pour responsabiliser le peuple d'Israël dans Josué 23 et 24, et il y parle des épines. Lorsqu'il dit « Attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, l'Éternel a chassé devant vous les nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait mille, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous. Comme il vous a dit, soyez attentifs sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet, un piège, un fouet dans vos côtes et des épines dans vos yeux. » C'est Josué 23, versets 8 à 13. Alors, entre ce passage et le premier que nous avons cité, il y a eu un événement important, c'est la loi de Moïse. Et toute cette loi se résume à dire « Obéis et tu seras béni » ou bien « Désobéis et tu seras maudit ». Et Josué ici ne fait que confirmer la désobéissance produit des malheurs qui sont magnifiquement illustrés ici par le filet. Comme un piège, le fouet qui blesse les côtes et les épines dans les yeux. Mais, par contre, l'obéissance produit la bénédiction. C'était une promesse de Dieu que Dieu a donnée près des eaux de Marah dans Exode 15. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, le verset 26. Alors là, il y a beaucoup d'accumulation de si, et beaucoup de gens n'aiment pas l'accumulation des si, parce qu'avec des si, on mettrait Paris dans une bouteille, dit-on. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament prouve que l'homme par lui-même est incapable d'obéir à la loi de Moïse. Même par sa propre volonté, par ses propres forces. Ce qui fait dire à beaucoup de gens, je n'aime pas l'Ancien Testament, heureusement qu'il y a le Nouveau. Et il y a beaucoup de questions qu'on se pose en lisant l'Ancien Testament. Pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi la polygamie? Pourquoi les lapidations? Pourquoi tant d'interdictions, tant d'obligations, tant de rituels, des coutumes, tous ces sacrifices? C'est que la révélation de Dieu s'est faite progressivement. Avant d'apprendre à manger avec couteau et fourchette, nous avons appris à manger à la cuillère. Avant de savoir marcher en parfait bipède, on marche à quatre pattes. C'est ce que l'écrivain de l'Épître aux Hébreux développe. Christ a un ministère supérieur, son alliance est plus excellente, basée sur de meilleures promesses. Hébreux 8, 6. Et il ajoute, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par la seconde. Hébreux 8, 7. La loi de Moïse, donc, était provisoire. Elle propose des solutions provisoires, d'où les sacrifices répétitifs. Elle comporte un ensemble d'ordonnances qui ne concernent que le peuple d'Israël à une époque donnée. Elle solutionne partiellement le problème du péché. Il y a pardon, mais pas délivrance. Et Christ devait donc venir pour ôter le péché du monde. Et on peut voir dans la Bible une progression tout à fait remarquable de la révélation de Dieu à travers les âges. schématiquement, premièrement, Dieu se révèle à un homme, Adam. C'est Genèse, le premier chapitre jusqu'à 3. Tout est parfait, tout est magnifique, jusqu'à la chute. Ensuite, Dieu se révèle à quelques hommes, Noé, Enoch, Abraham, Jacob, les patriarches. C'est le reste du livre de la Genèse. C'est encore la préhistoire parce que l'Écriture n'existait pas encore, il n'y avait pas la loi. Et puis Dieu se révèle à travers tout un peuple, le peuple d'Israël. Ça c'est tout l'Ancien Testament, avec la loi de Moïse. Mais avec Jésus-Christ, Dieu se révèle à tous les peuples. Ça c'est le Nouveau Testament, par un sacrifice unique. Dieu se crée un peuple nouveau par le don du Saint-Esprit à la Pentecôte. C'est l'Église. C'est le temps de l'Église universelle dans cette époque, celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et puis, il y a le monde nouveau, le monde à venir. Là, ça va concerner des myriades, comme il est dit dans l'Apocalypse. Il y aura une période de 1000 ans, et puis l'éternité dans la perfection. Nous voyons par la suite, après la loi de Moïse, les épines se généralisent dans le pays, et les prophètes ont souvent souhaité que le peuple d'Israël retourne vers Dieu. Ésaïe l'exprime clairement en disant « Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces, même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse. » Et dans Ésaïe 27, Dieu compare Israël à sa vigne. « En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre les ronces et les épines, je marcherai contre elles, je les consumerai ensemble, à moins qu'on me prenne pour refuge et qu'on fasse la paix avec moi. » C'est Ésaïe 27, versets 2 à 5. Et ce qui est magnifique dans ce contexte, juste quelques versets avant, Dieu invite son peuple au confinement. Donc le confinement est dans la Bible. Et il est dit, « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. » Ésaïe 26, le verset 20. C'est vraiment étonnant que nous vivons maintenant une époque de confinement, d'humiliation, de retour vers Dieu. Et comme il est dit aussi dans cette parole, que Dieu a donné à Salomon, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, s'il prie, et s'il cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et son pays, je guérirai. » Deux Chroniques 7, le verset 14. Alors on peut dire que vraiment avec l'Ancien Testament, Dieu a tout essayé pour sauver son peuple. Il a envoyé des prophètes, des grands prophètes et des petits prophètes. Il sait que la loi de Moïse a échoué. Il sait qu'il devra venir lui-même visiter cette humanité et se sacrifier lui-même pour racheter conformément à son amour et sa justice. C'est Billy Graham qui employait cette image. Comment faire pour bouger un nid de fourmis qui est installé en plein milieu de votre potager? Vous avez de l'admiration pour leur travail. Les fourmis ont leur utilité dans la nature. Comment les bouger sans leur faire du dommage? Il faudrait savoir communiquer avec le langage des fourmis. Mais c'est impossible de communiquer avec des fourmis. Sans être une fourmi soi-même, faudrait devenir une fourmi. Et c'est exactement ce que Dieu a fait avec l'humanité. Il est devenu homme et a communiqué avec l'humanité. Il y aura, après les petits prophètes, une longue période de silence entre Malachie et Matthieu de 400 ans. Mais Christ viendra, ce sera un nouvel air. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, Matthieu 1, 21. Alors, la venue de Christ n'était pas sans épines non plus. Satan fera tout pour l'éviter. L'ange a dû convaincre Joseph de ne pas rompre. Puis il n'y avait pas de place à l'hôtellerie et Jésus est né dans une étable. Le pays est sous domination romaine et il y aura le massacre des nouveau-nés sous Hérode. Et puis la fuite en Égypte. Mais Christ viendra conformément à la promesse de Dieu. Et nous voici dans les évangiles, Christ parlera quelquefois des épines, comme dans la parabole du semeur, par exemple. Le récit est important, il se trouve dans trois évangiles. Et nous disons dans Luc 8, « Un semeur sortit pour semer la semence, une partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. » Puis Jésus en donne l'explication. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. C'est Luc 8, versets 5, 7 et 14. Alors pour Christ, les épines de la vie, ce n'est pas seulement des épreuves, ni le péché ou les conséquences du péché original, c'est pas des malédictions, des souffrances du monde, c'est avant tout notre désintéressement pour Dieu. Voilà la plus grave des épines. Et Jésus mentionne trois causes, les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Chaque fois que nous remplaçons l'attachement à Dieu par ses faux appétits, nous sommes comme étouffés par des épines et spirituellement nous restons sans fruits. À nous donc de faire un choix, comme le dit l'apôtre Paul, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, Philippiens 3, 14. Alors les évangiles se terminent par les épines qui ont été portées par Christ sur la croix. Matthieu 27, 29 dit « Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur la tête de Christ. » Le sacrifice de Christ est unique. Il est complet et non renouvelable. Il ouvre donc une nouvelle voie, une voie de victoire sur les malédictions, sur le péché. Il donne pardon et délivrance. Jésus a été fait notre sacrification une fois pour toutes à notre place, Hébreux 10, 10. Une voie de victoire sur les tentations et les attaques du diable, sur les maladies et la mort, il offre la vie éternelle. Et le peuple de Dieu n'est plus limité à Israël, mais le peuple de Dieu est un peuple tiré du monde entier. C'est l'Église créée par Dieu, par l'Esprit donné à la Pentecôte. Alors, plusieurs passages sont clairs à ce sujet. Nous obtenons déjà les prémices des victoires de Christ sur la croix, en attendant le total rétablissement des victoires de Christ. Satan sera bientôt vaincu totalement. Et en attendant, il y a encore des épines. Mais en Christ, elles revêtent un sens nouveau. Et il y a plusieurs textes qui le démontrent. Hébreux 10, 10, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Éphésiens 1, 7, en Christ nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Galates 3, 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Colossiens 2, 15, Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et 1 Pierre 5, 10, 11, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc tout progrès spirituel est dû au mérite de Christ sur la croix. Nous ne connaissons pas encore la perfection, mais nous sommes en chemin vers la perfection. Elle a été gagnée par Christ. Hébreux 10, 14 dit « Par une seule offrande, Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Puis il y a les épines dans les épîtres. Il y a un passage vraiment surprenant, c'est quand l'apôtre Paul parle de son écharde. Et il parvient à donner un sens à cette épine qui le tourmente dans 2 Corinthiens 12, le verset 7 à 9. Il est dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde. » Une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Magnifique passage, 2 Corinthiens 12, 7 à 9, qui nous montre qu'en attendant la réalisation totale de la rédemption, il est vrai qu'il y a encore des épreuves, des épines, des souffrances, des persécutions. On ne connaît pas vraiment l'écharde dont Paul parle. On pense à une maladie ou un handicap. Mais ce qui est remarquable, malgré cette écharde, il est en communion avec le Seigneur. Et nous aussi, lorsque nous sommes éprouvés, nous sommes en communion avec le Seigneur. Et la prière est un outil précieux pour nous aider dans tout moment difficile. Et Dieu répond d'une façon ou d'une autre, mais toujours la réponse de Dieu réconforte merveilleusement. Et si Dieu dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse », et Dieu révèle à Paul le sens de sa souffrance. Et il y a une raison, il y a une utilité. C'est pour te préserver de l'orgueil, pour que Paul puisse continuer à dépendre de Dieu et qu'il expérimente encore plus la puissance de Christ sur lui. Oui, Satan est déjà sous nos pieds et il sera bientôt écrasé, jugé et inopérant à tout jamais, parce que la fin des épines arrive, la fin de toutes les épines. Et nous arrivons à l'Apocalypse pour clôturer en beauté notre réflexion de ce matin. Ce sera la fin des épines qui est déjà annoncée dans Ésaïe 55 au verset 13 où il est dit « Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. » Voilà donc l'éternité qui nous attend. Il n'y aura plus de marche en arrière. Avec Dieu, nous savons où nous allons. La progression est en route et elle aboutira. Notre espérance, c'est Maranatha. Christ est venu. Il vient et il revient. Et nous fêterons bientôt les noces de l'agneau sans épines. Comme il est dit dans Apocalypse 21, le verset 4, « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Apocalypse 21, 4. Alors voilà, chers amis, nous pouvons bien sûr terminer par un moment de prière. Chacun chez soi. Nous pouvons prier les uns pour les autres, les présenter au Seigneur, parler à Dieu des épines qui nous gênent et qui nous touchent personnellement, mais aussi intercéder pour ceux qui souffrent et aussi avoir une pensée pour l'Église qui est persécutée dans ce monde. Et c'est aussi pour nous une occasion d'être aux pieds du Seigneur pour renouveler notre foi, pour garder notre espérance en la venue prochaine et certaine du Seigneur. Alors voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous réconforte selon sa richesse. Amen.
Voilà les amis, avant de recevoir la bénédiction et avant d'écouter un chant qui sera interprété par notre sœur Jacqueline, « Ô viens devant le Saint Trône », nous allons prier sur le thème de la prédication « Les épines ». Prions afin de demander de bonnes choses à notre Père Céleste. Nous avons cette promesse du Seigneur Jésus dans l'Évangile de Matthieu. Jésus nous dit au chapitre 7, verset 11, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui leur demandent ?» Prions. Père, avant d'écouter ce chant qui nous rappelle qu'à tout moment, nous pouvons nous approcher devant ton Saint Trône, devant le Saint Trône de l'Éternel notre Dieu, Seigneur, nous voulons te prier pour ta parole qui nous encourage à combattre toutes ces épines qui embarrassent notre marche de tous les jours. Les épines, ce sont nos soucis, et combien nous devons reconnaître que les soucis sont pour l'instant bien présents dans notre vie de chrétien. Lorsque nous voyons que l'Église de Mulhouse est dans la tourmente médiatique parce que, soi-disant, ce serait de leur faute que le virus s'est répandu en France, devant de telles accusations, nous te demandons de bénir nos frères et sœurs de l'Église de Mulhouse. Seigneur, protège-les. Père, c'est vrai que nous nous faisons du souci pour le coronavirus, nous te demandons de nous protéger, nous et notre famille. Que demander de plus concernant les épines qui encombrent notre marche de tous les jours? Ces épines, ce sont les richesses et les plaisirs de la vie. C'est souvent à cause d'elles que nous nous éloignons de toi. Nous nous laissons submerger par elles. Ces épines, ces plaisirs de la vie, ces richesses étouffe la parole que nous venons d'entendre. Seigneur, nous voulons te demander pardon, pardon d'être si facilement étouffés par les soucis de tous les jours. Aide-nous contre toutes ces épines qui s'accrochent à nous et qui nous empêchent de voir que notre Dieu pourvoit à tous nos besoins. Père éternel, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, accompagne-nous pendant toute cette semaine qui s'offre à nous, nous te le demandons. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoutons maintenant le chant « Ô viens devant le Saint Trône », après quoi notre frère Jean-Luc clôturera ce culte.
Pour clôturer ce culte, j'aimerais partager avec vous juste la fin de l'épître aux Romains. Romains 16, verset 25, et je lis en français courant. Louons Dieu, il a le pouvoir de vous fortifier dans la foi, selon la bonne nouvelle que j'annonce et qui proclame Jésus-Christ, et selon la révélation que Dieu a faite de ce projet de salut, tenu caché très longtemps dans le passé. Maintenant, ce projet de salut a été mis en pleine lumière par le livre des prophètes, conformément à l'ordre du Dieu éternel. Il a porté à la connaissance de tous les autres peuples pour qu'ils mettent leur foi en lui et qu'ils lui obéissent. À Dieu, seul sage, soit la gloire par Jésus-Christ pour toujours. Amen.